plus d'être fils qu'ami. N'est-ce pas ? C'est plus essentiel d'être fils partageant la même vie que Dieu que d'être un ami, de façon générale. Mais lorsque le fils est ami, il est plus d'être ami. Vous comprenez ? Quand l'ami est fils, il vaut mieux être ami que pas ami. Bon. Alors, on dit, le concile semble souligner que le propre de l'ami, c'est de partager la vie même de Dieu. Non. Qu'en est-il du fils ? Quel est le propre du fils ? Le fils, c'est celui qui reçoit la vie. Le fils la reçoit du Père. On est fils en tant que je reçois la vie. Donc, il y a un premier et un second. La relation de filiation implique un ordre et forcément mais pas forcément une différence. Le fils éternel est second par rapport au père qui est premier, mais le fils est égal au père et le père au fils, de sorte que le fils est Dieu comme le père est Dieu, et que tout ce qu'a le fils, le père le fait pareillement. N'est-ce pas ? On peut être fils et parfaitement égal au père. La relation de filiation n'implique pas l'inégalité, elle implique simplement l'ordre. L'ordre dans la même nature. Hein ? Alors, le propre du fils, c'est de recevoir la vie du père. Nous sommes fils par la grâce. Nous sommes fils par la grâce que je reçois de Dieu. Maintenant, la différence, l'ami, c'est quand le fils est appelé à partager à la vie du fils, en disant à la mission du fils. Parce que Jésus, qui est le fils, il avait une mission, il a été envoyé par Dieu pour faire connaître aux hommes. Alors, il avait donc, en plus du fils qu'il était, il a reçu une mission. Eh bien, c'est à cette mission que les fils que nous sommes sont invités comme amis du Christ. Ça va ? Oui, au fond, Jésus a choisi parmi les fils des amis qui doivent faire la même œuvre que lui. Alors,
le mot sélection n'est pas trop fort.
Pardon ?
Que le mot sélection n'est pas trop fort.
J'ai pas dit sélection, j'ai dit choix. C'est élection, c'est pas sélection. C'est un choix d'une pure gratuité de Dieu. Comment se fait-il qu'il y a quelques-uns qui sont baptisés et d'autres qui ne sont pas ? C'est un choix de Dieu sur les baptisés qui implique un appel, donc une exigence. C'est une élection. Non, 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 la vocation chrétienne. Ça, c'est le baptême. Pardon pour choquer. Ça, c'est le baptême. Pardon ? Le baptême fait des fils des amis. Si évidemment ils ne sont pas encore fils, il les fait fils. Mais le but, c'est de faire des amis. Je prends l'exemple concret. Par exemple, vous avez l'intention, vous êtes chef d'État. Vous avez l'intention de quelqu'un que vous trouvez très intelligent, malheureusement il n'est pas français, mais vous voulez le faire ambassadeur dans son pays. Et bien, vous commencez par le faire français, et ensuite vous dites qu'il va. Eh bien c'est pareil, le baptême fait de nous des ambassadeurs. Évidemment, si vous n'êtes pas fils, il commence par vous faire fils. Mais le propre du baptême, c'est de vous faire ami du Christ. Du sacrement, je parle du sacrement. Tous les hommes sont appelés à être des fils, mais tous les hommes ne sont pas forcément les baptisés. Tous devraient rentrer dans cet aspect de la mission. C'est pour ça que l'Église cherche à baptiser tous les hommes, pour qu'ils soient rassemblés dans cette même Église. Mais le propre du baptême, c'est de faire, si vous voulez, des fils qui soient amis. Voilà. pardon, c'est un peu serré. Ça passe.
Est-ce que c'est à ça que Jésus fait allusion lorsque les apôtres disent nous en avons vu certains qui parlent entendement et font des prodiges, pourtant ils ne sont pas parmi nous. Et Jésus répond, laissez-les faire.
Mais je ne crois pas. Je crois que le Christ peut se servir de tout le monde, baptisé ou non baptisé. Voilà. Il peut se servir de tout le monde, même de gens, l'ânesse de Balaam. Hein, vous connaissez ce passage où c'est l'ânesse qui a prophétisé, qui s'est mis à. Alors, on avance, oui.
Si le baptême nous introduit dans la famille de Dieu, c'est dans le sens que. C'est dans quel sens qu'on peut le comprendre?
Si tu n'as pas la grâce, il te la donne. Et donc, le propre du baptême, c'est quand même de donner la grâce. Hein. Donc, si tu n'es pas fils, il fait de toi un fils. Mais si tu es fils, parce que tu crois, qu'est-ce qu'il ajoute? Il fait de toi un ami. Il t'appelle, il te donne une mission. Pourquoi est-ce qu'on les baptême des adultes, par exemple? On demande aux adultes de proclamer leur foi. S'ils ont la foi, c'est qu'ils ont la grâce. Donc le baptême donne pas la grâce, sinon je ne baptiserai pas. Et le propre du baptême, c'est de donner la mission. C'est la mission ecclésiale. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Si vous regardez bien, d'ailleurs, la mission du Christ a commencé au baptême. Mais évidemment, si vous n'avez pas la grâce, il vous la donne. Parce qu'on ne peut pas être envoyé si je ne suis pas fils. Je ne peux pas être ami de Jésus si je ne suis pas fils. Ça va? On en soulèvera d'autres, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est vrai que je n'ai pas l'intention d'aller jusqu'au bout du document, mais il faut quand même avancer un petit peu. Alors, numéro 3. Alors, on veut regarder entre le numéro 3 et le numéro 4 comment Dieu se révèle. Alors, on va voir tout un cheminement qui s'achève dans le Christ, comme on vient de le voir. Dieu qui crée et conserve toute chose par le Verbe, offre aux hommes dans les choses créées un témoignage incessant sur lui-même. Conserve, ça va? La création, c'est un acte de Dieu qui en lui-même est éternel. Donc, comme tel, il n'est ni présent, ni passé, ni futur. Hein, il est toujours présent. Hein. Je ne veux pas dire que la création est continuée, mais je dirais que la création est présente. C'est un acte présent. Mais c'est pas Dieu qui continue de créer. Mais c'est un acte éternel du côté de Dieu. C'est lié dans le temps, hein, et crée l'être dans le temps. Il donne l'être dans le temps. Mais une fois que cet être est créé, il est gardé dans l'être par la puissance de Dieu. Et non seulement Dieu crée, mais il conserve. Il faut la même puissance pour créer que pour conserver. Il ne suffit pas de mettre les choses dans l'être, il faut encore les maintenir dans l'être. Donc, cette action de Dieu, c'est celle qu'on appelle la création. On veut pas, là, Dieu qui crée et conserve toute chose par le Verbe, c'est Saint Jean qui le dit ça, offre aux hommes dans les choses créées un témoignage incessant sur lui-même. Donc la création, rend témoignage. Ça va, ça va? Comment la création rend témoignage de Dieu? En sorte que, comme toutes les œuvres, elles parlent de leur auteur. Comme toute œuvre témoigne qu'elle a été créée. Ce que dit Saint Paul, comme on lisait tout à l'heure aux Romains, les choses visibles nous renvoient à l'invisible. Alors, la création rend témoignage de leur auteur, de son auteur. Donc, par la création, Dieu offre aux hommes un témoignage incessant sur lui-même. Vous voyez, on se réfère à Romains, ce que je disais tout à l'heure, 19-20, ce qu'il a d'invisible. Oui, car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour les hommes manifeste. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Comment ? Ce qu'il a d'invisible depuis la création se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Donc, la création, pour une intelligence saine, hein, qui quand même s'accroche, hein, Saint Thomas, c'est pas donné à tout le monde, c'est quand même un effort. La création doit nous faire découvrir de Dieu qu'il est. Et quoi encore? Qu'est-ce que l'intelligence humaine peut découvrir de Dieu à travers la création? Simplement qu'il est. Vous êtes d'accord déjà qu'il est? C'est l'Église qui le dit. Et quoi donc qu'il est? Parce que si les effets existent, c'est que la cause existe. Non? Le problème, c'est de savoir ce que sont les effets. Ça va être des faits. C'est ça le problème. Le philosophe peut montrer l'existence d'un premier qui lui est par lui-même, à partir des réalités créées. Mais quoi donc? Qu'est-ce qu'il peut dire encore de Dieu?
Il continue à être dans sa création, qui n'est pas faite.
Qu'il est, qu'il continue, si vous voulez, oui. Qu'il est éternel, vous voulez dire ça? Oui. Une éternité, oui.
Il nous quitte pas, enfin, je veux dire, minute après minute, il nous soutient, il nous prend, il nous...
Oui, enfin son éternité, oui. Son omniprésence, oui. Oui, on peut dire aussi son omniprésence. Il est présent à toute chose qui existe. Oui, mais c'est naturel, l'intelligence humaine doit pouvoir le découvrir. Saint Paul dit son éternelle puissance. Et sa divinité, son éternelle puissance, sa perfection, ce qu'on appelle nous les attributs divins. Quels sont les attributs divins, mes frères? Simplicité. Après, la science, la bonté, la perfection. La perfection. Après, son infinité, l'immutabilité. Bref, vous voyez que c'est pas très clair. Bref, l'intelligence peut, à travers les choses, philosophiquement, découvrir quelque chose de Dieu. Donc, c'est ce que dit le Concile. Dieu, qui crée, conserve toutes choses par le Verbe, offre aux hommes dans les choses créées un témoignage incessant sur lui-même. Deuxièmement, voulant encore ouvrir la voie d'un salut supérieur. Il se manifesta aussi lui-même, dès l'origine, à nos premiers parents. La voie d'un salut futur, il se manifeste à Adam. Comment s'est-il manifesté à Adam ? Voulant encore ouvrir la voie d'un salut supérieur, il se manifesta lui-même, dès l'origine, à nos premiers parents. Qu'est-ce que vous diriez ? Vous connaissez la Genèse ? Quelle est cette manifestation dès l'origine à nos premiers parents ? Il a offert à Adam la voie d'un salut d'en haut, le latin dit ça, un salut qui vient d'en haut. Le premier homme, Dieu tout de suite lui dit, c'est vrai, tu es homme, tu as la possibilité de vivre comme homme, d'être heureux comme homme. Eh bien moi je t'invite à rentrer dans une vie qui vient d'en haut, salut qui vient d'en haut. C'est l'arbre de vie. L'arbre de vie auquel il pouvait se manger, il pouvait se servir. Il prenait les fruits de l'arbre de vie. Il y avait deux arbres dans le paradis terrestre, non ? Il y en avait d'autres, mais particulièrement deux. Deux qui nous intéressent. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans l'arbre de vie, c'était donc l'invitation à comprendre que, en nourrissant de ses fruits, il recevait une vie nouvelle. Et l'homme a en lui la capacité de vivre comme homme, d'être heureux comme homme. Mais Dieu lui a tout de suite proposé la vie qui vient d'en haut. Qui veut dire la vie de qui ? Tout de suite, Adam a été invité à vivre comme un fils. Pas simplement comme une créature, comme un homme. Donc voilà la première manifestation. Dieu lui dit, voilà, tu as ici au cœur du jardin un arbre, c'est l'arbre de vie. C'est une manifestation de Dieu. C'est une image, hein, l'arbre de vie. Au fond, c'est Dieu. C'est un langage pour nous faire comprendre, enfin, que Dieu a appelé l'homme à vivre en fils. Première, dès le début, hein, dès la création.
Alors à ce moment-là, il n'était pas porté à avoir la connaissance.
Pardon ?
À ce moment-là, il n'était pas porté à avoir la connaissance.
Non. C'est lui qui s'est dit, poussé par le démon, pas pour rien, et il a voulu manger de l'arbre de la connaissance. Et ça, Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas. Qu'est-ce que c'est que l'arbre de la connaissance ? Là, il y a le péché. Il s'est passé du temps, hein, entre la création d'Adam et d'Ève et le péché. Donc il y a eu un petit moment quand même, il a connu cet état. Et l'arbre de la connaissance, au fond, abrégeons, hein, parce que je voudrais avancer. C'est l'homme qui prétend dire ce qui est bon et mal. Dieu seul peut dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Définir ce qui est le bien et le mal. Je vous donne l'interprétation du Saint-Père. Dieu seul peut dire c'est bien, c'est mal. Pour ça, les commandements viennent de Dieu. C'est lui qui dit ça c'est bien, ça c'est mal. Mais l'homme qui prétend dire lui-même ce qui est bon et mauvais se fait Dieu. Donc, en voulant manger de l'arbre de la connaissance, c'est symbolique, hein, il a simplement prétendu définir lui-même ce qui était bon et ce qui était mauvais. Vous voyez ? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Souvent nous sommes comme ça. Non, ça c'est pas un péché. Comme ça on n'a pas besoin d'être pardonné. Ça c'est pas un péché. C'est pas nous qui pouvons dire si c'est un péché. C'est Dieu. Et parce que Dieu dit, alors je comprends que je suis blessé. Sinon je ne le saurais pas. C'est lui qui me dit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc l'homme a voulu la faute. Après la chute. Tiens, après la chute. Par la promesse d'un rachat, il les releva dans l'espérance du salut. Qu'est-ce qui s'est passé là, après la chute? La promesse, on dit ça le protévangile. C'est quoi le protévangile? La première bonne nouvelle. Voilà. Tu lui écraseras la tête à la femme. Il t'atteindra au talon, mais tu lui écraseras la tête. Donc au fond, l'annonce que l'homme serait victorieux du tentateur, ça c'est déjà une espérance. Ça c'est encore une annonce. Eh bien, il les a relevés dans l'espérance du salut. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu continue. Il prend un soin, il a pris un soin constant du genre humain pour donner la vie éternelle à tous ceux qui, par la fidélité dans le bien, recherchaient le salut. Tous les hommes qui recherchent le salut, Dieu leur a proposé la vie éternelle. C'est pas le baptême, hein? Encore au baptême. On n'est pas encore au baptême. Adam, il a tout de suite proposé le salut. Il a tout de suite proposé la vie éternelle. En se nourrissant, en recevant cette vie de l'arbre de vie, qui est le Christ. Tout de suite voulu recevoir, lui donner la vie. Eh bien, après le péché, Dieu a continué de proposer aux pécheurs, aux hommes, la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il demandait pour que les hommes puissent la recevoir? La fidélité dans le bien et la recherche du salut. Voilà ce qui est demandé aux hommes qui ne connaissent pas la révélation. Il est demandé la fidélité, le latin dit la constance dans le bien. Et la recherche du salut. Au fond, c'est reconnaître que de moi-même, je ne peux pas me sauver. C'est que j'ai besoin d'un autre. Je ne peux pas y arriver par moi-même. C'est ça le salut. La recherche du salut. Et la constance dans le bien, c'est-à-dire cet effort de se soumettre à ma conscience, à la lumière de ma propre... ce que ma conscience dit le bien. Donc, tout homme qui cherche le salut et qui est constant dans le bien, cet homme-là, Dieu lui donne la vie éternelle. Ça va? Voilà les fils. Ce sont des fils. Ce sont des fils comme nous. Comme nous. Par le don de la grâce.
Quand vous parlez de Christ, comment vous avez dit?
Oui, quand je dis Christ, il faudrait dire le Fils ici, hein, le Fils, avant que ce soit le Christ. Recevez la grâce du Fils. Donc, Dieu, vous voyez, on voit Dieu qui prend un soin constant des hommes, leur demandant la recherche du salut et la constance dans le bien. À son heure, tiens, il y a un moment particulier, à un moment donné, il appela Abraham. Mais parmi les fils, il appelle Abraham. l'élection, premier appel, première alliance, ça c'est l'élection, il appelle. À son heure, il appela Abraham pour faire de lui un grand peuple. Après les patriarches, vous les connaissez, les patriarches ? Patriarches, après Abraham. Isaac, Jacob, les frères. Vous n'en connaissez pas d'autres, patriarches ? Joseph, Moïse, c'est pas seulement patriarche, on n'appelle plus patriarche Moïse. Donc patriarche, c'est les premiers, les fils d'Abraham, fils et petits-fils d'Abraham. Pour faire de lui un grand peuple, donc c'est une élection d'un peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Qui est-ce qui s'appelait Israël ? Qui est-ce qui a été appelé Israël ? Jacob. Jacob, que Dieu a changé de nom et lui a donné le nom d'Israël. Donc, après les patriarches, c'est par Moïse et par les prophètes. Donc, Moïse. Moïse en Égypte, les prophètes. Qu'est-ce que Dieu fait ? Dans toute l'histoire, il enseigne à ce peuple la connaissance de lui-même. Au fond, Dieu a appelé un homme pour faire de lui le père d'un peuple qui connaît Dieu, qui le connaît. Le propre du peuple d'Israël, c'est le peuple qui a reçu de Dieu cette connaissance, cette révélation de lui-même. Quelle révélation ? Qu'il est le Dieu seul, unique et vrai. Seul Dieu, vivant et vrai. Père provident, juste juge. Et aussi, pour annoncer le Sauveur promis. Donc, au fond, si je regarde la révélation à Israël, comment le concile manifeste la connaissance que le peuple d'Israël a reçue, si ça c'est Jésus, Israël, le peuple d'Israël, c'était connaître Dieu, comment ? Comme unique, un seul Dieu, j'adore, vivant et vrai, véridique, Père provident. Un Dieu qui est père, juste juge, un Dieu qui juge, mais aussi donc le Dieu unique et le Messie, le Sauveur promis. Donc Israël a été choisi pour faire connaître au monde ce que Dieu avait fait connaître de lui-même et l'attente du Sauveur promis. La vocation d'Israël, l'appel d'Israël, Israël, il fallait qu'il soit fils, sinon il ne pouvait pas répondre à cette vocation. Mais la vocation, l'appel, la mission d'Israël, c'était de recevoir de Dieu cette connaissance révélée de lui-même et l'annonce du Messie. Donc, Israël devait annoncer au monde le Dieu unique et le Sauveur promis. Ça, c'est la vocation d'Israël. Et c'est ainsi qu'au cours des siècles, il prépara la voie à l'Évangile. L'Évangile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui passe pas là ? Au fond, et on voit ici une mission particulière. Il y a une mission. C'est un autre ordre. Dieu continue hein, de donner sa grâce. Mais à Israël, il demande quelque chose de particulier. Au milieu des nations, il devait être le témoin de la lumière des nations. Donc, parmi les fils, Israël devait être le fils. Il devait être le fils. Et là, je regarde sa mission.
Oui. Comment est-ce que vous regardez Israël en tant qu'une race donc, de sang ou est-ce que c'est lié à la foi?
Pour nous, c'est lié à la foi. Parce qu'on ne peut pas être, pour être le peuple d'Israël, il faut être fils. S'il n'y a pas de mission, s'il n'y a pas la filiation.
Donc, le droit de
donc, oui, c'est l'ami. C'est l'ami. La première révélation, si vous voulez, ça ce sont des manifestations, mais la première révélation de Dieu sur lui-même, c'est vraiment Abraham, hein, c'est au peuple d'Israël. C'est le début, parce qu'Abraham il a demandé la foi. Alors comment est-ce que vous comprenez quand on dit mais finalement c'est par la foi que vous serez sauvés? Quelle était la foi de Noé par exemple? Est-ce qu'il avait la foi Noé? Quelle foi?
L'obéissance.
Mais l'obéissance à qui? À quoi? Mais Dieu ne lui avait pas parlé.
C'est de la Bible.
Oui, c'est ça. Et il y a une foi implicite, enfin, au point de vue théologique, et une foi explicite. Au fond, il faut qu'il y ait la parole pour que je réponde à cette parole. Vous voyez, celui qui croit en sa conscience, qui écoute sa conscience, et qui... comment dire ça? Et obéit à sa conscience, qui est comme la voix de Dieu, n'est-ce pas? Celui-là, il croit. Mais c'est autre chose, la foi d'Abraham. Donc c'est autre chose. Substantiellement, c'est la même chose. D'être le juste Noé, Abraham, Moïse, ou les apôtres. Tous, ils doivent croire, mais ils ont une réponse de foi qui est proportionnée à la révélation qu'il leur est faite. Hein? Ça va? Au fond, ce qu'on voit, c'est que le peuple d'Israël, il reçoit une mission pour annoncer le Christ. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi tout ce temps? Pourquoi tout ce temps? D'ailleurs, déjà, saint Thomas se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu a mis tant de temps pour, au fond, entre le péché et Abraham? Est-ce qu'il n'a pas vu tout de suite appeler? C'est ce que répond saint Thomas. Parce que Moïse avait donné la loi pour dire où était le péché. Alors, saint Thomas dit, oui, mais avant de donner la loi, il fallait montrer à l'homme qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même. Donc, il fallait le laisser. Vous savez, on est souvent comme ça, on dit, ah, tu ne veux pas m'écouter, bon, ben, vas-y. Il craque, il se casse la figure. Tu vois, je te l'avais dit. C'est que comme ça. Au fond, le péché, il faut que l'homme découvre qu'il a besoin d'un sauveur. Alors, il faut qu'il fasse l'expérience, chacun de nous, hein, on y passe. Parce que ce qu'a vécu le peuple d'Israël dans le temps, nous, on doit le vivre dans notre vie. Alors, si on n'a pas compris qu'on a besoin d'un sauveur, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Il faut découvrir l'incapacité qu'on a radicale de se sauver pour faire appel au sauveur. Ah, tu as besoin d'un sauveur. Alors donc, tu es prêt à l'accueillir, ce sauveur. Si tu n'en as pas besoin, il est venu pour ceux qui étaient malades, pas pour les bien portants. C'est ça? Donc, il fallait laisser une certaine corruption de l'humanité pour qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas monter le ciel toute seule, même en construisant une tour. Elle ne peut pas y arriver.
Ça se comprend bien au niveau personnel, mais au niveau d'un peuple, c'est beaucoup plus difficile à envisager.
Oui, mais c'est pourtant comme ça qu'il a fait. Hein. Mais je crois justement que c'est le propre de la révélation, c'était de se servir de l'histoire d'un peuple pour enseigner tous les peuples. Et derrière le choix du peuple, c'est le mystère de l'Église, le corps du Christ. Parce que Dieu ne veut pas nous sauver seuls. Dieu veut nous sauver comme les membres d'un corps. Si on était simplement des individus, chacun de notre côté, hein, pas de problème, il aurait sauvé les personnes. Mais Dieu veut nous sauver dans un peuple, dans une famille qui est l'Église. Donc il fallait que cette pédagogie soit une pédagogie au niveau du peuple. C'est pour ça que je crois qu'il y a eu la pédagogie au niveau du peuple. Hein? En Abraham, tous les descendants d'Abraham, hein, qui font ce peuple, qui sont l'image de l'Église, qui sont les descendants de Jésus. Hein? Et ce peuple d'Abraham, ce peuple d'Israël, ce peuple-là, alors lui, il est appelé pour annoncer. Mais il est en même temps appelé pour être le lieu de l'éducation de Dieu. Dès qu'il péchait, crac, Dieu lui envoyait le Philistin. Dès qu'il adorait des idoles, hop, la peste, la famine. C'est une manière d'éduquer. Hein? En éduquant pour montrer que Dieu est unique. Donc c'est l'histoire d'Israël qui est l'éducation de Dieu, qui est, si vous voulez, en. Dieu prend le temps, hein? Ça c'est sûr qu'il a pris le temps. C'est pour ça que nous bénéficions, nous, de toute l'histoire d'Israël. Il faut au moins s'en servir. Donc, Dieu se sert de l'histoire de ce peuple pour préparer l'humanité à accueillir le Christ. Mais déjà, chacun pouvait accueillir le Christ. La vie éternelle. Donc, vous savez que Noé, il a vu le Christ. Il dit déjà d'avoir. Mais il a reçu la vie éternelle, donc il a reçu la grâce du Christ, donc il a reçu la vie. Chacun a fait son histoire, a eu son histoire du salut, où chacun a compris dans sa vie qu'il avait besoin d'être sauvé, ne serait-ce qu'à l'heure de sa mort. Il y avait une harmonie en lui telle, une perfection de sa nature telle, qu'il pouvait être bien heureux comme homme. Mais cette béatitude, c'est ce qui nous fait comprendre quelque chose du péché de l'ange. Cette béatitude, Dieu lui en a proposé une plus grande, mais cette fois-ci, qui au lieu d'être dans ses prises propres, serait gratuite, donnée gratuitement. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il dit tu ne mangeras pas. C'est à Dieu de donner. Dieu lui donnait. Et l'arbre, c'est pas la vie, il ne l'avait pas par lui-même. Il fallait qu'il mange du fruit. Donc il reçoive la vie d'un autre. Or le propre d'un vivant, c'est de se suffire à lui-même. N'est-ce pas ? Si Adam a été créé en justice originelle, quand il a été juste, Dieu l'a créé parfait. Mais il a créé homme parfait. Étant capable d'atteindre son bonheur comme homme. Mais voilà, Dieu lui a dit, écoute, tu peux te satisfaire de ce bonheur-là, mais moi, je t'invite au bonheur qui est le mien. Mais celui-là, tu ne pourras pas le prendre par tes propres forces, tu pourras le recevoir. C'est ça. Eh bien, il a mangé, et il a reçu, et il a communié à cet arbre de vie. C'est ça ? Donc il a accepté Adam. Il a accepté de se nourrir de l'arbre de vie. Il a accepté de recevoir cette vie éternelle. Mais il y a eu la tentation. Hein? Il dit, mais tu es complètement fou de recevoir comme ça. c'est qu'apprendre, c'est dans tes forces, tu peux tout seul. Certains de nous, on est bon. Parce que c'est pas seulement Adam qui sera tenté, c'est chacun de nous. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Alors, ce qu'il faut comprendre, au fond, radicalement, c'est que chacun a une histoire unique de l'accueil de la vie éternelle. Dieu ne cesse de proposer la vie éternelle. Et chacun, Dieu va se servir de l'histoire de chacun pour lui faire croître dans cette vie. Mais à quelques-uns, c'est l'élection d'Abraham, il les a choisis pour les inviter à rentrer pleinement dans cette vie d'enfant grâce à la connaissance que Dieu leur a donnée de ce dessein d'amour. Le fait qu'on sache ce à quoi on est appelé nous permet d'y rentrer pleinement. Alors c'est pour ça que Dieu a été très exigeant. Il dit, ben c'est bien, je t'appelle, bon, mais commence par savoir que tu es pécheur. La loi. Pourquoi la loi? Pour que tu comprennes que tu as besoin d'être sauvé. La preuve, c'est qu'il devait offrir un agneau. Il devait offrir un agneau, il devait manger l'agneau pascal, en souvenir du salut, et d'autre part, il devait offrir tous les ans des sacrifices d'expiation pour les péchés. Donc, clairement, ils savaient qu'ils avaient besoin d'être sauvés. La loi leur disait, tu as besoin d'être sauvé. Tu ne peux pas te sauver par toi-même. Les prophètes ont dit, attention, vous êtes en train de matérialiser la loi. Vous croyez que c'est en offrant des veaux gras que vous faites plaisir à Dieu. C'est pas vrai. C'est en comprenant que vous avez une attitude du cœur qui doit reconnaître qu'il a besoin d'être sauvé. Ce n'est pas en faisant des œuvres extérieures. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'esprit brisé. C'est l'esprit de pénitence. C'est pour ça que le dernier, Jean-Baptiste, qui est la charnière, convertissez-vous, Jean-Baptiste. Et puis le baptême de pénitence. C'est-à-dire, au fond, reconnaissez que vous avez besoin d'être purifié. Et au fond, toute la pédagogie du peuple d'Israël, c'était de rassembler dans une même foi un peuple, image de ce que le Dieu veut faire dans le Christ. Rassembler les nations entières dans la même foi pour que tous croient. Tel témoignage de l'Église que tous croient. Ça va ? Difficulté. Vous voyez, au fond, chacun a une histoire dont Dieu se sert, frappe à la porte continuellement, qu'il soit chrétien ou qu'il ne soit pas. Chacun, seul, face à Dieu, à cette histoire sainte. Mais il y a eu un peuple, Israël, qui a été choisi, dont l'histoire est pour nous révélation, éducation, préparation à accueillir le Christ. L'histoire d'Israël ne lui appartient pas. L'histoire d'Israël, Israël a été choisi, c'est bien. L'élection demeure. Et cette mission, il l'a réalisée en Marie. Toute l'histoire d'Israël, en fait, ça a été pour préparer Marie. Parce que alors là, il y a Jean-Baptiste, il y a ici, et Marie. Parce que Marie, c'est là. Parfaite fille d'Israël, servante du dessein de Dieu sur les hommes. Mais Dieu fait connaître à Marie son intention de sauver tous les hommes dans le Christ. Et Marie se fait servante. Israël est le serviteur, si vous lisez dans l'Écriture, c'est le serviteur fidèle. Quand vous lisez Isaïe, voit très bien. C'est le serviteur. Et ce serviteur, ce n'est pas seulement une personne, c'est aussi le peuple. Donc, il est serviteur parce qu'au fond, il sert le dessein de Dieu de communiquer la vie éternelle à tous les hommes. Mais ce serviteur, il va être élevé à la dignité d'ami. La différence entre le serviteur et l'ami, tous les deux coopèrent, hein, coopèrent à l'œuvre du maître ou de l'ami, mais avant le Christ, on ne pouvait servir Dieu que comme un Dieu et moi comme son serviteur. Mais après le Christ, c'est mon frère, le Christ, dans l'humanité. Donc je peux servir Jésus comme un ami. Il peut être mon ami, car il a l'humanité. Avant Jésus, on ne pouvait être que serviteur. On ne pouvait servir Dieu que comme serviteur. Mais après le Christ, on peut servir Dieu en Jésus comme ami. Tout à l'heure, pour les questions, là, si vous pouvez les préparer un petit peu, puis on répondra aux questions, puis on continuera, si vous voulez. Hein, parce que moi, je ne suis pas maître de mon sujet. Les questions peuvent aider à répondre vraiment à ce qui vous attend. Alors, c'est bien si vous pouvez les préparer un petit peu. Et puis, s'il n'y a pas de questions, on continue. Est-ce que tout le monde est fils de Dieu, même sans être baptisé? Est-ce que seuls les baptisés sont fils de Dieu? Nous sommes tous appelés à être fils de Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut faire de tous les hommes ses fils. Est-ce que nous le sommes tous? Ça, on est fils par la grâce de Dieu. Or, la grâce, on peut la refuser. Donc, on peut vivre sans la grâce. Et dans ce cas, on est mort, comme dit l'Écriture. Parce que le péché nous condamne. Donc, au fond, tous les hommes sont appelés à être des fils, et tant qu'ils ne sont pas morts, ils peuvent toujours accepter la grâce. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui.
En prolongement à cette question, il y a une question qui me vient.
Oui.
C'est-à-dire que maintenant, comme on a besoin d'être sauvé, on est mort si on refuse cette grâce de Christ.
Oui.
Tandis qu'à l'époque d'Adam.
Oui.
Non.
Oui, c'est ça. Adam, parce qu'il y a une question sur Adam. Donc on va revenir parce que c'est en effet un cas difficile. Est-ce que c'est la foi qui nous rend fils de Dieu? Non. C'est la grâce qui nous fait fils. Mais pour vivre en fils, il faut vivre dans la foi, l'espérance et la charité. Si vous voulez, vous pouvez être un homme, mais dormir. N'est-ce pas? Eh bien, quand vous dormez, vous restez un homme, mais il n'en reste pas moins que de l'homme, on ne voit pas grand-chose. Eh bien, vous pouvez être fils par la grâce. Mais si vous n'avez pas des actes de foi, d'espérance et de charité, vous ne vivez pas votre vie d'enfant de Dieu. Hein? Donc, la foi, c'est la manière d'être fils, enfin, de vivre en fils. N'est-ce pas? ça c'est important, j'exerce ma vie d'homme par mes actes d'intelligence et d'amour. Eh bien, j'exerce ma vie de chrétien par des actes de foi, d'espérance et de charité. Donc, normalement, la grâce qui m'a été donnée doit s'épanouir en moi dans la foi, l'espérance et la charité. C'est bon ? C'est rapide, hein ? Mais vous verrez ça, ça vient, on reviendra. On parle d'une révélation plénière. Est-ce que Dieu s'est révélé partiellement à travers d'autres paroles et d'autres gestes que ceux de la Bible dans d'autres religions ? Oui, c'est-à-dire, est-ce que Dieu ne s'est révélé que au peuple d'Israël ? N'est-ce pas ? C'est la question. Et par exemple, dans les autres religions, est-ce qu'il y a une révélation ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une action de Dieu dans l'histoire des hommes pour éclairer ? Vous répondriez comment ? Par exemple.
Je pense que chaque religion est une étape. Est une étape vers la grande révélation. C'est ce que Saint Paul dit dans son discours aux Athéniens, à l'Aéropage.
Oui,
vous ne cherchez que par tâtonnement.
Oui.
Dieu
alors,
a donné les
voilà.
Vous
voyez, au point de vue de la création, l'homme découvre l'existence de Dieu, il sait qu'il existe, mais il ne sait pas qui il est. C'est ça le tâtonnement. Hein? On atteint Dieu, on peut dire qu'il est, on peut dire qu'il est tout-puissant, mais qui il est, je ne connais pas. C'est un tâton, c'est comme un aveugle qui touche l'existence, mais il ne sait pas ce que c'est. Mais est-ce que il y a une révélation, par exemple, on parlait des bouddhistes, on parlait des hindous, on parlait de ces religions, des musulmans, par exemple. Est-ce qu'il y a une révélation ? Qu'est-ce que vous diriez ? Ah, ils ont la grâce, les hommes, ils cherchent. Oui. Ah oui, tous les hommes reçoivent la grâce du Christ, même avant le Christ, même ici. C'est la grâce du Christ. Et donc, ceux qui ne connaissent pas la foi chrétienne, c'est la grâce du Christ qui les touche. Mais est-ce qu'ils ont, reçu une révélation ? C'est-à-dire, est-ce que Dieu est rentré dans leur histoire et leur a parlé, comme il a parlé à Abraham et comme il a parlé en Jésus ?
On peut dire qu'avant Abraham, non, mais après, oui. Avant, non, puisque le peuple n'était pas élu pour pouvoir porter le message. Et après, oui, puisque le message d'Israël était de porter au monde entier la bonne nouvelle.
Oui, mais c'est Israël qui a parlé. Oui. Dieu a parlé en Israël.
Donc en soi,
mais est-ce qu'ils ont reçu une révélation ? Par exemple, est-ce qu'à la religion hindoue, le bouddhisme, le shintoïsme et tout ça, est-ce qu'il y a une révélation ? Comment ? Voilà. Il n'y a pas de révélation. Ce qu'on doit dire, c'est qu'au fond, ces êtres de bonne volonté ont cherché, avec l'aide de la grâce qu'ils ont en eux et qui les a éclairés. Ils ont été éclairés dans leur quête de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui rentre dans leur histoire. C'est très impressionnant, par exemple, quand on étudie, par exemple, le bouddhisme, de voir au fond comment chez eux, c'est la dimension religieuse, naturelle, qui est quand même extrêmement poussée, extrêmement grande, n'est-ce pas ? Mais c'est tout l'effort naturel de l'homme qui monte pour atteindre une communion avec Dieu. Mais c'est pas Dieu qui vient. C'est bien Dieu qui est venu pour eux, parce qu'ils ont la grâce, mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui vient. Il y a des bouddhistes qui ont des les visions, des apparitions de la divinité féminine, l'apparition féminine de la divinité, qui les fait rentrer dans une dimension mystique et tout ça. Ça peut très bien être un don de la grâce fait à ces hommes, n'est-ce pas ? Mais au fond, pour eux, la religion reste une ascension. Et ils n'ont pas accueilli cette révélation qui les fait accueillir un don de Dieu qui rentre dans leur histoire. Ce n'est pas eux qui font. En tout cas, pour l'Église, dit bien que dans chaque religion, il y a des vestiges ou des témoignages de l'authentique religion, des signes, des comment s'appelle ça ? Je n'ai pas le mot en mémoire, là. C'est-à-dire, hein ? Pas des vestiges, non ? Enfin, qui annoncent la révélation. Qui annoncent la révélation. Hein ? Mais vous voyez, quant à eux, la grâce est donnée. Et c'est la même grâce qu'à nous. N'est-ce pas ?
C'est... Comment peuvent-ils répondre sinon pas, s'ils ne sont pas sollicités ? Ils ne peuvent pas répondre à la grâce alors.
Et ils peuvent répondre, bien sûr. Ils répondent selon leur conscience, la droiture de leur conscience. C'est ça que Dieu leur demande. Oui. Et comme ils cherchent en vérité, la grâce les éclaire, les fortifie, et les aide dans cette recherche. Mais ils ne peuvent pas découvrir avec la force de l'intelligence humaine, même aidés par la grâce, sans la révélation, que Dieu est rentré dans l'histoire des hommes. Voilà. Dans le cadre de l'exégèse moderne, comment concevoir Adam ? Nom propre personnel ou nom générique ? De qualité préternaturelle, porteur de qualité préternaturelle ou aboutissement d'une longue évolution. Alors, je ne regarde pas l'exégèse, mais je regarde la foi. N'est-ce pas ? Pour la foi, Adam a existé. Comme premier homme, et comme tête de l'humanité. De sorte que, blessant la tête, le péché a blessé le corps entier. Alors, est-ce qu'Adam est un nom propre personnel ? Adam, ça veut dire la terre. Ou nom générique ? Oui, ça c'est une certaine exégèse qui veut en effet lire en Adam, voir en Adam. Moi, je dirais que c'est le nom propre qui désigne cet individu qui est le premier. Hein. Maintenant, personnel, certainement, personnel. Hein. Maintenant, est-ce qu'il est porteur de qualités préternaturelles ou aboutissement d'une longue évolution ? On ne peut pas comprendre les conséquences du péché d'Adam si Adam n'était pas tête des hommes. Vous comprenez ? S'il est l'aboutissement d'une longue évolution, de toute façon, d'homme à homme, n'est-ce pas ? Pour arriver à un homme parfait, alors, dans ce cas, il n'est pas compréhensible que son péché puisse porter atteinte à tous les hommes, même ceux qui vont naître demain. C'est très difficile de comprendre le péché originel. C'est une question de foi. C'est la foi qui dit que le péché de cet homme historique a été cause que toute l'humanité est blessée mortellement et condamnée. Donc, alors, comment comprendre ça ? Je ne veux pas trop insister, mais au moins dire ceci. ce qu'est la tradition médiévale, alors à la différence de l'exégèse moderne, qui, je crois pas, ne peut pas dire grand-chose. C'est la foi qui peut dire quelque chose. Or, à partir de la foi, qu'un homme puisse engager tous les hommes, c'est vrai du Christ et c'est vrai d'Adam. Vous voyez ? On comprend Adam à partir du Christ. De même que l'obéissance du Christ a sauvé tous les hommes, parce que le Christ est la tête de l'humanité par la grâce, de même la désobéissance d'Adam, qui était tête de l'humanité par la nature, a blessé tous les hommes. Au fond, Adam était, si vous voulez, comme l'aîné d'une famille qui viennent tous d'Adam, sinon pas de transmission du péché originel, s'il y en a qui étaient fils d'un autre que d'Adam. Tous nous sommes fils d'Adam, quelque part, et c'est pourquoi nous recevons de lui la nature blessée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait... Adam était créé dans un état de justice, où la nature était en pleine harmonie, si vous voulez, le corps et l'âme, l'âme spirituelle, le corps corporel. Ce sont des réalités qui ont beaucoup de mal à s'assembler. On fait l'expérience. C'est pas facile de rester spirituel quand on a le sommeil. Eh bien, la grâce naturelle, la grâce d'Adam, qui était la grâce de justice originelle, permettait une harmonie entre l'âme et le corps en Adam. Il y avait une harmonie parfaite. Ce qui fait que l'âme était tout entière, le corps servait l'âme tout entier dans une pleine harmonie. Tandis qu'après le péché, ayant perdu la grâce de justice originelle, la nature s'est trouvée dans sa tension, quoi, hein, incapable de retrouver la même harmonie, et ce qui explique que la nature chez nous est poids, est un poids, en plus des désordres qui ont été acquis à cause du péché. Donc, moi je répondrais comme ça, était-il porteur de qualités préternaturelles, je ne dirais pas préternaturelles, mais naturelles, mais selon une justice naturelle. Préternaturel, ça veut dire le démon a des actes préternaturels, n'est-ce pas ? Préternaturel, c'est-à-dire qualité de... Il faudrait dire, il avait une perfection, un état de perfection et de justice préternaturel. Peut-être que c'est le mot. Je ne sais plus. Bon. Voilà comment je répondrais. C'est-à-dire que la question est délicate. Parce que tout le problème, n'est-ce pas, du monogénisme qui est derrière. Dans le cadre de l'économie du salut, tel que vous l'avez défini, peut-on concevoir deux plans rédempteurs ? L'un sans le Christ, Adam qui n'aurait pas péché, l'autre avec le Christ, Adam pécheur. Paul, dans les Colossiens, dit que tout a été créé par lui, pour lui, en lui, le Christ. Idem dans le prologue, que tout a été fait par lui, que sans lui, rien n'a été fait. Et il y a deux... Quand on regarde l'éternité, enfin, quand on regarde la science de Dieu, on a toujours l'impression qu'il connaît les choses avant qu'elles existent. Et que c'est cette connaissance qui va causer la réalité des choses. Or, pour les choses de la création, Dieu connaît toutes les choses en tant qu'elles existent. Il les connaît éternellement, mais en tant qu'elles existent. Donc il ne les connaît pas des choses qui pourront être, il connaît des choses qui seront, parce qu'il voit déjà dans son éternité ce qui sera dans le temps. mais il le voit en tant qu'existant. Donc il connaît toute chose en tant que c'est. Je ne sais pas si vous voyez, ce n'est pas comme nous, une science probable. Et ce n'est pas parce qu'il connaît que les choses seront. Non. Il connaît ce qui sera, mais ce n'est pas parce qu'il connaît que ce sera. Je ne sais pas si vous voyez. Il connaît tout en tant que c'est. Il connaît l'être des choses. Ce qui est à la source de l'être. Donc il connaît toutes les choses en tant qu'elles existent. Donc quand Dieu a prophétisé le Christ, déjà, on peut dire que l'arbre de vie, c'était le Christ. N'est-ce pas ? Déjà, c'était en avance. Parce que Dieu connaît, il connaît toutes choses. Alors moi, je ne crois pas qu'il y ait deux plans, il n'y a qu'un seul plan, c'est le plan du Christ. Que ce plan, il enveloppait le péché, c'est vrai, il l'a enveloppé. Tout de suite. Alors, on peut se dire, les théologiens se posaient la question, est-ce qu'il y aurait eu l'incarnation s'il n'y avait pas eu le péché ? On aurait pu se poser ça. Parce qu'à ce moment-là, je ne regarde pas le plan de salut. Parce que le plan de salut, lui, il voit tout ce qui se passe. Et la manière dont l'homme reçoit la grâce. Mais est-ce que Dieu aurait pu faire un plan de salut sans le Christ ? Alors là, saint Thomas répond en disant que le théologien ne peut pas faire de théologie des possibles. Alors, tout est possible à Dieu. Il aurait très bien pu sauver les hommes simplement en leur effaçant le péché. Mais les hommes auraient été rachetés comme des esclaves, quoi. Mais là, vous verrez ça avec le mystère du Christ demain. C'est la place au fond du Christ dans le mystère du salut. Donc, moi, pas de théologie du possible. Alors, un plan sans le Christ, moi, je peux pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, là ? C'est des questions difficiles. Hein. Oui.
Vous avez parlé tout à l'heure du bouddhisme et de l'hindouisme.
Oui.
Et qu'est-ce que de l'islam ?
Oui.
Est-ce que ce n'est pas une religion révélée ?
Alors, le problème...
Oui. Ce qui va avec, c'est hier, on nous a dit que par la foi, seul le chrétien pouvait toucher Dieu. Et est-ce que l'acte de foi du musulman ne lui permet pas aussi de toucher Dieu ?
Oui. Bonne question. La première question. Le musulman, il part du donné révélé, on dit que ce sont une religion du livre, n'est-ce pas ? Mais au fond, il refuse la révélation qui est impliquée. Ils acceptent la filiation d'Abraham en se disant fils de non pas du petit Isaac mais de Ismaël, n'est-ce pas ? Donc il n'accepte pas la révélation. Donc moi je ne peux pas dire que c'est une religion révélée, au contraire. Justement, vous voyez, ils sont arrêtés Abraham, ils veulent bien Abraham, c'est un homme qui a reconnu le Dieu unique, n'est-ce pas ? Mais il n'accepte pas la révélation faite à Abraham. Au sens que c'est à sa descendance reçue. Je ne sais pas si vous faites attention à ce qu'on disait le salut. Abraham, il était stérile, enfin, par sa femme, stérile. Et ça a été, il a voulu trouver un moyen de que la promesse de Dieu se réalise, alors il a eu un fils de sa servante, Ismaël. Mais Dieu lui a dit non, c'est de ta femme. La naissance miraculeuse d'Isaac. Et c'est pour montrer que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas dans l'ordre naturel. Le salut est donné dans l'ordre de la grâce. Quand vous prenez Abraham, Isaac, la bénédiction d'Isaac, il voulait bénir Ésaü. Et il a béni Jacob. C'est pour montrer que la grâce qu'a reçue Jacob n'était pas la grâce qui lui était due, mais c'était un don gratuit. Jacob, ses enfants, hein, toutes les épreuves de Jacob, et puis Joseph, hein, la fameuse épreuve de Jacob en Joseph, n'est-ce pas ? Tout ça pour montrer au fond que c'est toujours par grâce. Ah oui, la révélation est une éducation pour montrer au fond que le salut est un don de Dieu et non pas un acquis des hommes. Je crois que c'est ça le problème de la révélation. C'est Dieu. L'homme a en lui-même les forces d'un certain bonheur, n'est-ce pas ? Naturel. Mais la vie divine, elle est un don gratuit de Dieu. Alors, on arrive à la question que vous aviez dit, n'est-ce pas ? Celle du péché. Je reviendrai sur la religion, les religions. À partir du péché originel, à partir du péché, où l'homme a ce poids qui sans cesse le porte à pécher. Hein ? Il ne peut plus. Le péché comme tel est une offense à Dieu. Donc, je ne peux pas recevoir la vie de celui que j'offense. Donc, si je suis dans le péché, je ne peux plus vivre de la vie éternelle. Je ne peux plus recevoir la vie. Vous comprenez ? La vie humaine est blessée par le péché, puisqu'il n'y a plus l'harmonie entre l'âme et le corps. Et deuxièmement, je suis fait pour la vie éternelle. Vous comprenez ? C'est ça qui est la difficulté de l'homme. C'est que l'homme, il est une nature qui, comme telle, est capable d'un certain bonheur naturel. Mais pourtant, c'est une nature qui est faite pour un bonheur surnaturel. L'homme est fait, bien qu'il soit naturel pour lui d'être homme, il est fait pour être enfant de Dieu. Donc, s'il ne vit pas sa vie d'enfant de Dieu, il est déjà condamné. Vous comprenez ? L'homme qui ne veut pas, déjà Adam, il lui a été proposé le salut d'en haut. Adam, donc le premier homme. Donc, pas d'homme. Et Adam a reçu, a accueilli ça. L'homme ne peut plus être pour autre chose que la vie éternelle. Or, la vie éternelle, je ne l'ai que par un don de la grâce. Donc, je ne peux plus atteindre ma fin que par un don gratuit de Dieu. Mais si moi je refuse ce don, je ne peux plus l'atteindre ma fin. C'est ça, la mort. Est-ce que ça répond à votre question ? Mais au fond, l'homme est fait. Ça, c'est la révélation. J'explique un peu dans le temps, mais quand on, au niveau chrétien, on comprend. Sinon, on ne comprend pas pourquoi le Christ est venu nous sauver. Si ce n'est pas grave, vous savez, il n'aurait pas fait le voyage. Non, mais en dehors de la plaisanterie, je crois que c'est important de comprendre ce qu'est le péché. Le péché étant une rupture avec Dieu, Dieu ne peut plus me communiquer sa vie. Or, c'est cette vie pour laquelle je suis fait. Donc, sans cette vie, je suis mort. Sans cette vie, je suis condamné à la mort.
On peut dire donc que Adam, avant le choix, était dans un état similaire aux anges.
Non.
Pas non. Comparable.
Non. Adam,
c'est un acte d'adoration.
Si vous voulez, dans la mesure où la révélation entre la création d'Adam et la révélation du salut, ça soit, supposons qu'il y ait un temps. Hein, parce que Adam, il n'a pas été d'abord petit enfant, parce qu'il aurait fallu qu'il, hein, il aurait fallu qu'il ait une mère. Et alors, bon. Donc Adam a été créé dans un état de perfection. Alors, est-ce qu'il y a eu un temps où il a été parfait avant qu'on lui ait proposé l'arbre de vie ? Théologiquement, je dirais non, parce que Adam a été créé pour se nourrir à l'arbre de vie. Il a été créé pour se nourrir à l'arbre de vie. Il a été créé pour être enfant de Dieu.
Donc il n'avait pas, à cette date-là, il n'avait pas conscience de son humanité.
Ben si, il était parfaitement homme comme vous et moi. Nous sommes enfants de Dieu.
Que l'Écriture nous dit que c'est à partir du moment où il pêche,
oui.
Donc il prend conscience de son état,
oui, attention.
Il est retiré.
Il prend conscience de sa nudité.
C'est son état.
Pas du tout. c'est comprendre, au fond, qu'il a besoin d'être enveloppé de la miséricorde de Dieu pour regarder, pour être en sa présence.
Donc il a une limite.
Il comprend d'un seul coup qu'il y a une rupture entre lui et Dieu, que si Dieu ne rompt pas cette rupture en l'habillant par sa miséricorde, il ne peut qu'être rejeté de Dieu. Hein, c'est ça que ça veut dire. Vous ne pouvez pas rester, trop littéral. Hein, parce que c'est ce que je dois dire, au fond, c'est qu'Adam a été créé dans une nature, mais tout de suite appelé à la vie divine. Donc Adam n'a pas attendu avant de se nourrir de l'arbre de vie. Je ne crois pas. Et donc, ça, on peut penser qu'entre le don de l'arbre de vie et le péché, il y a eu un temps. Ça, on peut penser. Ça. C'est compréhensible. Ça va ? C'est difficile, hein. C'est toujours une question délicate. Bon, oui.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi qu'il n'a pas, le fait qu'il n'a pas mangé de l'arbre de vie parce qu'il n'a pas. Pas révélé et après qu'il a mangé de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit mets un ange pour qu'il ne mange pas de l'arbre de vie et qu'il devienne comme un dieu.
Oui, enfin, chacun peut interpréter comme on veut. Moi, ce que je veux voir simplement, ce que dit le Concile, c'est que dès l'origine, il s'est manifesté aux premiers parents et il s'est manifesté. Toute manifestation, c'est toujours pour le salut, donc c'est toujours pour la vie. Il y a toujours, il y a un autre signe, par exemple, quand Dieu dit « tu ne mangeras pas », s'il donne un commandement, c'est qu'il enseigne quelque chose qui n'était pas possible à Adam de découvrir tout seul. Donc c'est déjà une révélation. S'il y a une révélation, c'est que c'est aussi pour une vie surnaturelle. Parce que Dieu ne peut pas se révéler sinon pour le salut d'en haut. Enfin, théologiquement, vous avez le droit à toutes les opinions. Moi, je vous propose celle-là.
Non, c'est pas le fait d'avoir une opinion, c'est le fait de.
Oui, mais si, parce qu'on cherche, n'est-ce pas, ce qu'on sait. Il n'y a qu'une chose que la foi sait, c'est qu'Adam a existé et que c'est son péché qui est conséquence de la mort de l'humanité, que la mort est rentrée dans le monde. Et c'est à cause de ce péché qu'il a fallu le rédempteur qu'est le Christ. Ça que nous savons. Et toute l'éducation biblique nous révèle au fond et nous conduit à Jésus, nous fait découvrir Jésus comme le sauveur et comme celui qui m'apporte l'ultime connaissance de Dieu, hein, et l'ultime connaissance du don de la grâce. Parce que, vous voyez, prenez les bouddhistes, ils vivent avec la grâce, mais ils ne savent pas qu'ils ont la grâce. Ils vivent avec, peuvent pas vivre sans elle. Mais ils ne savent pas. Vous voyez ? Nous la savons, nous savons. Donc nous pouvons nous faire dépendants. Nous pouvons mendier ce bien. Nous pouvons demander ce bien. Et nous faire relatifs à lui. Et être plus dociles, du coup, à celui qui nous conduit. Parce qu'il y a des erreurs possibles. On peut faire erreur. Hein. La multiplicité des religions naturelles montre comme c'est difficile de monter vers Dieu sans se tromper. L'autre question qui consistait donc.
Si de même par l'acte de foi, le Christ atteint Dieu.
Alors, moi je crois qu'on doit dire par la foi. Mais est-ce qu'elle est implicite ou est-ce qu'elle est explicite ? Ouais. Le chrétien, moi je dis tout homme, par la foi, n'est-ce pas, est en communion avec Dieu. Et moi je ne peux pas refuser à un musulman qui est droit, qui cherche la vérité et qui prie en vérité, dans la foi, hein, en son Créateur, je ne peux pas lui refuser la communion avec Dieu, je suis désolé. S'il est dans cette vérité, c'est qu'il est avec la grâce. Et le Concile le dit très clairement, c'est que même les athées qui gardent le désir de la vérité et de la droiture de leur conscience, ça n'est pas sans la grâce qu'ils cheminent ainsi. Oui. Alors il faut faire attention quand on parle de la foi, de comprendre que la foi c'est un grand arbre, hein, qui commence par une petite graine et qui petit à petit prend tout. Alors, l'importance de la foi, c'est que justement, par la révélation, elle puisse s'expliciter pleinement. Mais moi, je ne peux pas dire, on n'a pas le droit de dire, que le musulman n'atteint pas Dieu en lui-même. Dans la réalité de sa communion à Dieu, il atteint Dieu lui-même. Mais ce toucher de Dieu ne peut pas atteindre sa plénitude, justement, ne peut pas atteindre sa plénitude contemplative à cause du fait que la révélation n'est pas personnelle. C'est-à-dire que le Dieu qu'il adore, le musulman, il ne sait pas que c'est un Dieu qui veut se faire l'ami. Je crois que c'est important parce que dans notre dialogue avec finalement les autres religions, de ne pas s'attribuer ce qui est au fond une pure gratuité simplement et qui nous permet, disons, une croissance plus profonde, n'est-ce pas ? Mais ce sont des questions difficiles, hein. Ouais, je suis d'accord. Ça va ? On continue alors. Au numéro 4, on montre en fait l'aboutissement de cette préparation. Parce que malheureusement, on était très vite, hein, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir comment Dieu prépare l'homme, comment il le prépare. Hein, la loi, toute l'éducation du peuple d'Israël. Parce qu'au fond, ce sont des chemins par lesquels on doit passer nous aussi. Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Il a en effet envoyé son Fils, le Verbe éternel, qui éclaire tous les hommes, pour qu'il demeura parmi eux et leur fit connaître les secrets de Dieu. Et au fond, c'est ça le propre de la... Si vous voulez, l'ultime de la religion chrétienne, c'est qu'au fond, Dieu a parlé de multiples manières, mais d'une certaine manière, il a parlé en ces temps qui sont les derniers, en son Fils. Donc, c'est le Fils lui-même, le Verbe éternel, qui éclaire tous les hommes, qui a été envoyé par Dieu au milieu des hommes. Donc, on ne peut pas une plus grande révélation, puisque c'est Dieu lui-même qui vient demeurer au milieu des hommes. Ce n'est pas un homme qui a été élevé au ciel et qui va scruter la divinité, puis qui revient de son tabord pour parler aux hommes de ce qu'il a eu l'expérience. Non. C'est Dieu lui-même qui, en Jésus, n'est-ce pas, est venu demeurer. Alors, ce qui est important dans cette première phrase, au fond, c'est l'unité de la révélation. C'est l'unité. Il a parlé de multiples manières, mais en ces jours qui sont les derniers, il a parlé en son Fils. Au fond, c'est une même révélation. Il y a une acmé, si vous voulez, il y a une perfection de la parole de Dieu en son Fils, mais c'est quand même déjà Dieu qui parlait avant, par les prophètes. Jésus-Christ donc, le Verbe fait chair, homme envoyé aux hommes, prononce les paroles de Dieu et achève l'œuvre du salut que le Père lui a donné à faire. Donc, c'est le fait historique de Jésus. C'est très important. Il est né sous Ponce Pilate. C'est pas une idée, c'est quelqu'un, Jésus. Qui est qui ? Dieu, le Verbe, Dieu dans la deuxième personne de la Très-Sainte Trinité, Dieu fait chair, homme envoyé aux hommes. Alors, quand je dis, alors vous verrez ça demain, mais quand Jésus dit « Je te le demande, je te le dis, je suis », ce « je », qui est-il ? Dieu ou l'homme ? C'est Dieu. La personne, la petite personne hein, dans l'enfant Jésus, sa personne, c'est Dieu. Et quand on aime quelqu'un et qu'on peut découvrir à travers ce qu'il manifeste, sa personne, son moi, ça, en Jésus, c'est Dieu. Il prononce les paroles de Dieu. Quand il parle avec la vérité même de Dieu. Et achève l'œuvre du salut que le Père lui a donné à faire. Arrêtons. Donc. On se donne un petit quart d'heure. 10 minutes peut-être. 10 minutes. Donc on se retrouve à 4h10. Parce que sinon j'y arrive pas. Hein.